Hello les amours, comme je vous l'avais annoncé, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, donc du 25 au 31 mars, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses francophones se mobilisent pour mettre en valeur une association de leur choix. C'est une très belle action et belle mobilisation et je suis ravie que Feed Positive y participe encore une fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en valeur l'association Un Petit Bagage d'Amour et d'avoir pour invitée la présidente de l'association Samra Sedik. Un Petit Bagage d'Amour a été créé en 2016 par Samra et vient en aide aux mamans, futures mamans et bébés en situation de précarité. L'association a été créée à l'issue d'une situation lorsque Samra s'est rendu compte en tant que sage-femme de la terrible précarité d'une femme qu'elle s'occupait à la maternité. De suite, Samra a compris du besoin de la précarité des femmes et de les soutenir. Un Petit Bagage d'Amour compte aujourd'hui 15 antennes situées partout en France, 9 membres du bureau issus de milieux de la petite enfance, 50 bénévoles et un réseau de solidarité très étendu. Plus de 8000 enfants ont déjà eu un Petit Bagage d'Amour et plus de 200 bagages ont déjà été distribués par mois. Aujourd'hui, on va donc découvrir cette belle association menée par Samra. Alors c'est parti, jingle! Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feed Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feed Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Bonjour Samra, comment vous allez ?
Bonjour Andy, je vais très bien, j'espère que vous aussi.
Je vais très bien, merci beaucoup. Samra, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour assister à cette nouvelle édition du podcaston. J'adore le concept de votre association et ça me fait vraiment plaisir de la faire découvrir à mes auditrices, surtout qu'il y a pas mal d'auditrices mamans donc dans mon audience. Donc du coup, on va commencer Samra. Alors, est-ce que vous pouvez me parler donc de l'association ? Donc votre association, elle vient en aide aux mamans, aux futures mamans et aux bébés en situation de précarité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est venue cette idée d'association ? Quelle est son histoire ?
Alors, du coup, tout commence en 2016. Je suis enceinte de mon deuxième bébé. Je travaille dans un hôpital, je suis sage-femme. Et travaillant dans un hôpital prenant en charge des femmes confrontant des troubles de la relation avec le bébé, des troubles médico-psychosociaux. Et donc, dans cet hôpital, il y avait beaucoup de femmes en grande précarité, qui parfois étaient à la rue la semaine avant leur hospitalisation dans notre hôpital, beaucoup de réfugiés. Et donc, un jour, je m'occupe d'une femme enceinte de jumelles, donc qui dormait dans une cafétéria la semaine d'avant. Et je lui demande de préparer ses affaires parce que c'était le temps pour elle d'aller accoucher. Et du coup, elle me dit qu'elle n'a pas d'affaires. Donc elle me tend un sac plastique avec un petit peigne dedans, une brosse à dents. Et je lui demande, vous n'avez pas d'affaires pour les petites? Parce que c'était des petites jumelles qu'elle attendait. Elle me dit, non, j'étais à la rue la semaine d'avant, j'ai absolument aucun moyen de m'acheter des affaires pour les bébés, j'ai rien. Donc, du coup, moi j'étais enceinte, j'étais complètement bouleversée à ce moment-là. Et le jour même, en fait, je me suis dit, il faudrait une asso vraiment qui cible ces situations-là, qui cible les femmes enceintes, les bébés, parce qu'à ma connaissance, il n'y en avait pas. Et donc c'est de là que tout a commencé. Le soir, je monte une page Facebook qui s'appelait à l'époque une valise maternité pour les réfugiés. Et il y a eu beaucoup de followers d'emblée, en fait. C'est une cause qui a beaucoup attiré les gens. Et donc j'ai eu tout de suite des propositions de dons, des propositions d'aide, des propositions de bénévolat, même si l'association n'était pas encore tout à fait officielle. Et puis c'était un moment aussi où il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient d'arriver sur Paris à La Chapelle. et qui dormaient donc à la chapelle, dans des tentes, parfois même le sol. Il y avait parmi ces réfugiés-là des femmes enceintes. Et donc, voilà, tout est venu en même temps, en fait, énormément de besoins. Et voilà, après, ça a coulé de source, on a fait boule de neige, ça a pris racine et ça continue aujourd'hui.
C'est fou parce que ça montre également que c'est vraiment un besoin vital et c'est ça, votre association répond à un vrai problème parce que le fait est que à partir du moment où vous avez commencé votre page Facebook le jour même, ça a pris directement. Donc il y a vraiment un besoin là-dessus et que ça montre qu'il y a de réelles femmes en situation de précarité qui ont besoin d'aide. Donc c'est affolant aussi à la fois, je trouve, parce que j'ai vu un de vos posts aussi sur Instagram que vous avez posté qui dit que il y a 2822 enfants qui sont à la rue en France, dont presque 700 qui sont âgés de moins de 3 ans. Donc une source du Monde le 17 octobre 2023. J'ai trouvé ça extrêmement grave. C'est énorme quand même. Et ça montre que votre association répond à ce problème-là. Et du coup, ça doit quand même être une fierté pour vous d'avoir créé une belle association telle quelle et qui continue de grandir chaque jour.
Alors, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est une grande fierté, mais c'est surtout une grande fierté d'avoir des bénévoles comme il existe dans la sauce.
Oui.
Vraiment, ça a été l'occasion de rencontrer des personnes formidables qui se donnent corps et âme régulièrement, toutes les semaines, pour répondre aux nombreuses demandes aux mails, donner les rendez-vous, pour donc assurer les permanences au local, préparer les bagages, les distribuer, etc. Enfin, il y a vraiment une équipe de bénévoles, mais qui est formidable. Et ça, je crois que c'est ma plus grande fierté.
On va revenir sur tout ce qui est les bagages d'amour, etc. Est-ce que en termes de chiffres, vous pouvez nous dire combien y a-t-il de bénévoles alors aujourd'hui? Est-ce que vous êtes la seule du coup présidente ou y a-t-il des personnes qui vous soutiennent également sur l'association?
Alors, donc moi je suis présidente au niveau des administratifs, quoi, tout à fait. Après, le bureau est composé effectivement de plusieurs personnes qui sont bénévoles depuis les débuts de l'association, qui sont très 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 investies, qui donnent énormément de temps, énormément d'amour dans la cause. Et il y a également donc des bénévoles réguliers qui viennent une à deux fois par semaine, qui s'occupent des collectes, etc. Enfin, on va dire, il y a à peu près 15 personnes dans le noyau dur environ.
C'est
Et ça,
super.
c'est à Paris, hein. Parce qu'il y a également des antennes en France. Mais là, j'ai vraiment les chiffres précis pour la région parisienne.
Oui, c'est vrai parce que j'ai vu que en fait vous êtes aussi à Bordeaux ou enfin j'ai cru voir il y avait plusieurs trois Instagram par exemple pour un petit bagage d'amour. Est-ce que du coup les Instagram sont aussi cibles en fait où il y a des bureaux?
En fait, voilà. Tout à fait, il y a une quinzaine d'antennes en France. Il y a Le Mans, Lille, Reims, Rennes, Brest, Bordeaux, tout à fait. Toulouse. Il y avait Perpignan, mais malheureusement, on n'a pas pu continuer parce que c'est vrai que quand on ouvre une antenne, il faut que les bénévoles suivent derrière, les moyens, etc. Et voilà. Après, il y a Lyon. Lyon aussi qui est très actif. Lille. Je ne les ai pas toutes en tête, mais effectivement, et puis les Yvelines, voilà, Melun, Sénart. Voilà, celle-là, c'est pour le moment celle que j'ai en tête. Désolée pour celle que j'ai oubliée, mais vous pouvez facilement les retrouver sur le site internet, un petit bagage d'amour.org.
C'est cool parce que en fait, vous avez des antennes un peu partout dans la France et ce sont des grandes villes de France et du coup, ça permet vraiment de toucher beaucoup plus de personnes et de pouvoir mettre en avant votre cause. Un peu plus partout en fait, directement. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire, Samara, quels sont les objectifs de votre association? J'imagine que au fur et à mesure, ça fait depuis 2016 que vous l'avez créée, les objectifs ont-ils changé ou est-ce que vous avez des objectifs qui sont toujours les mêmes?
Alors, concernant les objectifs, effectivement, depuis les débuts de l'association, ils ont un petit peu évolué, sachant qu'au début, on s'occupait vraiment que du matériel, de fournir le matériel aux femmes enceintes dans la grande précarité, qu'elles puissent accoucher dans la dignité et accueillir leur bébé dans de bonnes conditions. Et en fait, plus on avance, là, vous parliez tout à l'heure des enfants à la rue. En fait, ben, ça nous arrive également de faire du logement d'urgence, de leur payer des nuits d'hôtel quand dans l'urgence. C'est vrai que dans les objectifs, je pense que le logement d'urgence pour ces femmes bébés dans la grande précarité, ça pourrait être à long terme ouais, un objectif, spécifiquement pour ces mamans bébés, avec bébés en bas âge. C'est vrai que le 115 est saturé. Le 115 est saturé. Donc, jadis, il y avait des personnes prioritaires pour ne pas dormir à la rue. Maintenant, bah, on se rend compte que plus on avance et plus les personnes prioritaires ne sont plus des personnes prioritaires, notamment les nouveau-nés de 7 jours, etc. Donc, il n'est pas rare de voir des femmes sortir de maternité à la rue sans moyen de logement. Et ça, c'est intolérable, c'est inadmissible, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et également, dans les objectifs, ça serait d'avoir un local cosy à Paris, notamment pour pouvoir accueillir ces personnes lorsqu'elles viennent chercher des bagages, les accueillir vraiment chaleureusement. Parce que là, actuellement, nous sommes dans une église, l'église Saint-Sulpice à Paris, qui nous héberge gratuitement, qui sont également formidables. Et c'est vrai que les mamans, on ne peut pas les faire descendre dans le local par mesure de sécurité. Donc, du coup, nous, on voudrait vraiment un endroit en plus. Cosy, chaleureux, où on peut leur offrir un café, un thé, pour qu'elles arrêtent, enfin, qu'elles aient un moment de repos un peu entre toutes leurs démarches administratives. Et également pouvoir faire peut-être des ateliers, ateliers portage bébé, ateliers avec des psychologues, etc.
Ce serait vraiment génial de faire cela. En fait, ça ferait comme un suivi pour ces femmes qui viennent vous voir et vous pouvez les suivre tout au long donc, de la naissance à la suite lorsque bébé il commence à grandir, etc. Et en fait, elles auront toutes les ressources nécessaires pour reprendre leur vie en main après ça. Et est-ce que c'est difficile de trouver un local sur Paris lorsque vous êtes une association?
Oui, sur Paris, c'est particulièrement difficile. Il y a beaucoup d'associations qui sont dans la même problématique. Et il y a beaucoup d'associations, mais il y a moins de locaux. Voilà. Plus d'associations que de locaux.
Oui, donc oui, c'est vrai que les locaux doivent être beaucoup en demande, hein, surtout lorsque si vous cherchez des locaux assez grands pour accueillir tout le monde. C'est vrai que ça ne doit
C'est
pas être facile. Et est-ce que c'est parce que vous avez
ça.
parlé des femmes du coup que vous voyez à la maternité qui sont parfois du coup qui se retrouvent à la rue après avoir donné naissance. Est-ce que ces femmes, c'est du coup c'est l'association qui vient vers elles ou est-ce que vous avez des femmes qui viennent directement vers vous?
Alors, ça nous arrive de recevoir effectivement des messages directement des femmes. Parfois, des assistantes sociales, quand elles font les demandes de bagages, ben, elles nous disent en même temps, cette femme est à la rue, à la sortie. Parce que même les assistantes sociales sont complètement démunies et n'ont pas de solution puisque nous, nous en avons. Et ça nous arrive également que ça soit d'autres personnes, d'autres associations qui donnent l'alerte. On nous envoie des messages, qui nous taguent dans certaines publications en disant bah, tiens, une femme avec bébé de 3 mois, bah, on pense au petit bagage d'amour.
Oui. Donc c'est génial parce que ça veut dire que vous avez quand même un super réseau en fait d'entraide où vous pouvez en fait vous passer les informations ou vous entraider entre associations, mais également soutenir les femmes qui en ont besoin.
Donc, c'est vraiment un réseau d'entraide. C'est vrai que. Parfois, ça nous arrive de donner des bagages à des femmes qui sont envoyées par des associations. Voilà, par exemple, des associations alimentaires ou autres. Et bah, en contrepartie, on donne le bagage. En contrepartie, on peut appeler ces associations alimentaires quand on a, par exemple, des femmes qui viennent d'autres moyens et qui n'ont pas à manger, par exemple. Vous voyez, il y a beaucoup d'entraide au niveau des assos, et ça, c'est merveilleux.
Oui, c'est ça qui fait la beauté, j'ai envie de dire, oui, des associations. Et heureusement que les associations sont là hein, pour faire ces choses-là, parce que c'est vrai que vous faites un travail incroyable. C'est énormément de travail. Et je pense que tant qu'on n'est pas dans une association en tant que bénévole ou présidente, on ne peut pas forcément se rendre compte du travail que vous faites derrière. Donc bravo à vous pour tout ça.
Ben, merci, merci beaucoup. Et c'est vrai que vraiment les bénévoles passent énormément de temps. Moi, j'ai beaucoup levé le pied depuis que j'ai eu mon dernier bébé. Je suis quasi plus du tout au local. Et heureusement que ben, les bénévoles sont là. Hein. Heureusement que les bénévoles, que Camille, ma collègue vice-présidente, les autres membres du bureau sont là parce que c'est vrai que sinon, ça serait très, très compliqué pour que la sauce continue à fonctionner. Et Constance aussi. Constance, qui est une bénévole aussi très assidue, qui dès le lendemain, elle était encore à la maternité, qu'elle est en train d'envoyer des mails pour répondre aux personnes qui demandaient des bagages.
Wow. Bon, on fait un big up à toutes les bénévoles, donc d'un petit bagage d'amour, et aussi à toutes les bénévoles hein, de toutes les associations de France, parce que clairement, vous êtes des pépites. C'est incroyable
Oh.
tout ce que vous faites.
Voilà, big up à toutes les associations, effectivement.
Samra, est-ce que vous pouvez me dire, à l'heure actuelle, quels sont les progrès que vous avez vus depuis la création de l'association? Est-ce que vous pensez que la précarité de femmes enceintes ou des femmes en général qui sont mamans est en hausse ou en baisse?
J'ai l'impression qu'il y a quand même une augmentation de la précarité globalement. C'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes. Je pense pas qu'on soit de plus en plus connus. On nous connaissait d'avant un peu, mais je pense que les demandes, elles accroissent parce qu'il y a un accroissement de la précarité. Et ça, c'est clair. En fait, il y a eu une période un peu, même pendant le Covid, hein. Alors là, le Covid, c'était complètement visible, cette précarité. C'était compliqué en fait parce que je sais pas si je peux un peu développer sur le Covid, mais il y avait des demandes qu'on avait eues de personnes qui, sans le Covid, n'étaient pas en précarité forcément. Par exemple, les personnes qui travaillaient au noir, qui ne pouvaient pas avoir d'indemnité d'arrêt maladie, etc., et qui, du coup, avec le Covid, ont dû arrêter toute leur activité non déclarée et se retrouver complètement sans rien en fait. On a eu pas mal de demandes comme ça. Pendant le Covid, vraiment, on s'est rendu compte de plein de choses. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de la précarité invisible, en fait. Pas la précarité qu'on voit dans la rue. Vous voyez, les personnes qui font la manche, etc. Mais il y avait encore plus. Vraiment la précarité invisible. Celle qui est vraiment au fond des foyers et qu'on ne voit pas. Ouais. Et bon, on s'est rendu compte en même temps d'autres choses, hein, qu'il y avait énormément de solidarité. Aussi. Parce qu'on a eu des propositions, par exemple, de Parisiens qui allaient se confiner au sud ou en province et qui nous proposaient ben, leur logement pour les femmes qui étaient à la rue avec leur bébé.
Effectivement, la période du Covid, je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie et ça a été vraiment une période difficile pour tout le monde. Et je pense que bah, pour les personnes, surtout les femmes, bah, en situation de précarité, bah, c'était terrible, ça a dû être terrible. Et vous avez dit quelque chose, effectivement, qui est extrêmement vrai, c'est la précarité invisible. C'est ça, je pense que c'est quelque chose qui est très dur d'identifier parce que, comme vous l'avez dit, elle est invisible. Donc, savoir qu'il y a des personnes en situation précaire, on ne peut pas forcément le voir. Et pour pouvoir toucher ces personnes-là et les aider, c'est un peu compliqué si elles ne connaissent pas effectivement l'association, elles ne peuvent pas réellement vous contacter. Donc, vous vous demandez comment on peut aider ces personnes-là qui sont en précarité invisible, en fait.
Mais c'est ça, c'est carrément ça. Ce sont des personnes, par exemple, leur lave-linge va tomber en panne, vous voyez? Elles n'auront pas les moyens de réparer ou d'en acheter un autre. Et bah, va être dans l'embarras, quoi. C'est compliqué, quoi. Et ce n'est pas des personnes qui vont forcément aller dans les associations ou autres. Ce sont des personnes aussi qui n'auront pas les moyens de se faire des loisirs, vous voyez? Qui vont tout mettre dans le vital et pas dans les loisirs. Il n'y aura pas de cinéma, pas de restaurant, etc.
C'est
C'est pas forcément les personnes qu'on voit. Et c'est tout aussi triste.
Ah, c'est clair, c'est vraiment pas des situations simples et bah, ça fait mal au cœur de voir ça et je pense que c'est pour ça l'association, c'est une très très belle cause. Surtout en tant que femme, nous, enfin, on est très empathique et on sait très bien que c'est un type de situation qui peut arriver à tout le monde, d'être en situation précarité. On ne sait jamais ce qui peut arriver hein, du jour au lendemain. On peut se trouver à la rue du jour au lendemain. Et je pense que la plupart des femmes qui se retrouvent dans cette situation, ça est, bah, ils ont vécu bah, certaines choses comme ça. Elles étaient peut-être aussi dans des situations correctes et d'un jour à l'autre, elles se sont retrouvées à la rue et sans rien avec leurs enfants et ça, c'est, ça fait vraiment mal au cœur.
Ah oui, non, ça fait très mal. Non, non, c'est clair.
Samara, on sait que la sensibilisation, c'est vraiment une grande partie du travail des associations pour que les gens soient bien informés, autant que les femmes, mais aussi les hommes, du coup, parce que il peut très bien y avoir des familles qui se retrouvent en situation précaire. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà rencontré des familles en situation précaire, du coup, une famille à la rue? Est-ce que ce sont des personnes qui viennent aussi vous contacter?
Oui, tout à fait. Oui, c'est fréquent. Nos papas sont souvent présents. Donc souvent, c'est des familles qui ont fui la guerre, que ce soit en Afghanistan, en Syrie, Congo, etc. C'est des personnes donc, qui n'ont pas eu d'autre choix, en fait, donc, qui ont pu venir en famille, tout à fait. Après, parfois, c'est des femmes qui sont seules, qui ont eu un grand parcours migratoire et qui ont rencontré... Le papa du bébé, ici, sur leur parcours.
D'accord. Super intéressant.
Et donc, oui, ça nous a. Mais c'est compliqué parfois pour ces personnes, comment dire, au niveau notamment pour les loger, en fait. Le 115, souvent, il n'a pas assez de place. Enfin, c'est plus facile, on va dire, pour une mère seule avec les enfants d'être logée que pour le papa. Donc ça nous est arrivé de voir des familles où le papa il dormait dehors pour laisser sa femme avec les enfants au 115, vous voyez?
Ouais. Mais c'est pas évident, c'est, et ça c'est encore plus dur à voir, je pense aussi, parce que au final, en fait,
Ah
c'est, je
ouais.
suis obligée de laisser ma femme et mes enfants et moi dormir à la rue pour pouvoir en fait faire en sorte qu'ils sont dans un confort.
Exactement. Après, je parle pas des papas aussi qui font des gros qui font des nuits très courtes, hein, qui se lèvent à 3-4 heures du matin pour aller travailler à l'autre bout, parce que c'est le seul travail qu'ils ont pu trouver, quand ils trouvent un travail, hein, et qui rentrent à des horaires pas possibles.
Oui.
Enfin, ils ont beaucoup d'épreuves. Ils ont souvent beaucoup, beaucoup d'épreuves. L'épreuve de l'école aussi, je pense à l'école. C'est des familles qui, avec le 115, quand elles ont une classe au 115, sont ballottées d'hôtel en hôtel. Parfois de département en département, ça peut être du 78 et le lendemain on se trouve dans le 77 et puis on se retrouve dans le 93 de la semaine d'après. Donc vous imaginez que pour l'école, c'est très compliqué.
Bah oui.
Quand les enfants du coup sont inscrits dans une école, ben, les familles font en sorte que l'enfant ne perde pas ses repères et donc veulent rester dans la même école. Donc s'ils sont dans un hôtel à l'autre bout, ben, parfois ce sont des enfants qui vont se réveiller à 4 h du matin pour pouvoir prendre des transports et arriver à l'école à l'heure. Et
Ouais.
donc, rentrer très, très tard. Et ça, on a des situations comme ça. Et c'est
Wow.
très compliqué, c'est très triste à voir. Les enfants qui sont crevés, qui arrivent à l'école, qui dorment à l'école, qui, pour leurs devoirs, alors c'est compliqué, comment voulez-vous que l'enfant fasse devoir s'il rentre à 22 h à la maison? 22 h dans l'hôtel, une pièce avec les autres enfants à côté, enfin, c'est compliqué. Vraiment, c'est des situations qu'on n'imagine parfois même pas.
Wow. Et c'est vrai que waouh, enfin franchement c'est horrible comme situation en fait. Ce que ouais, ce que vous venez de dire, c'est, ça doit être vraiment pas facile pour un enfant, parce que déjà un enfant, bah, c'est un enfant. Ça, le rien que le trajet du bah, de l'école, donc des transports, bah, c'est fatigant en fait. Et puis au final, lorsqu'il arrive à l'école, il n'a pas forcément peut-être de plaisir à profiter, à en fait à jouir, donc des comment dire, des avantages d'être un enfant, parce qu'il aurait fait tout ce trajet, il aurait voilà, et comme vous dites, il arrive à 22 h, il se lève à 4 h du matin comme un adulte en fait, comme une vie d'adulte, alors que c'est pas censé ce qu'il est censé faire à son jeune âge, quoi. C'est vraiment triste comme situation.
Ah oui, c'est triste. Et puis l'histoire de la cantine aussi. Du coup, ce sont des enfants, ils sont obligés d'être à la cantine. Mais parfois, les cantines, c'est pas possible. Ils ont pas les... Quand on a vent de ces situations, bah en fait, quand on sait que pour les cantines, voilà, ça nous arrive de plusieurs reprises de prendre en charge les frais de cantine pour ces enfants-là. Pour que les mères puissent être tranquilles, quoi.
C'est vraiment pas facile. Les pauvres, franchement, voir ce genre de situation, ça donne encore plus l'envie d'aider parce que enfin, les enfants, ils sont... on a juste une envie, c'est qu'ils profitent de leur jeunesse, tout simplement, et qu'ils soient un enfant et d'aider ces personnes qui en ont besoin.
Oui, tout à fait. Qu'ils restent des enfants, en fait, qu'ils profitent de leur insouciance, de leur innocence, qu'ils grandissent comme tous les autres enfants. Mais vraiment, on a des bénévoles dans l'association, enfin, Camille par exemple, qui parfois se démène avec les mairies. Elle passe beaucoup de temps à appeler de mairie en mairie pour régler des histoires d'école, des inscriptions, des histoires de cantine, etc. Vraiment, elle est exceptionnelle.
Donc un gros bisou à Camille si vous nous écoutez. Vous faites un excellent job. Alors je vais juste revenir sur l'importance de la sensibilisation parce que j'ai dévié la question, mais je voulais savoir quelle est l'importance de la sensibilisation pour votre association, du coup un petit bagage d'amour, parce qu'on sait très bien que la sensibilisation pour les associations, c'est... Et que c'est une grande partie du travail et c'est extrêmement important pour bien informer les gens, que ce soit les femmes et les hommes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle importance que ça prend, vous, pour votre association?
Alors en fait, on n'a pas beaucoup de... On n'y réfléchit pas trop à ça, parce qu'on a l'impression que les gens, ils sont d'emblée sensibilisés. On a beaucoup de messages spontanés de personnes qui viennent lui demander si on a besoin d'affaires. En fait, c'est souvent les gens qui ont des affaires à donner, qui viennent vers nous. Vous voyez? Comme les bébés grandissent très vite, que souvent on ne sait pas trop quoi faire des affaires de bébés, qui sont souvent en très bon état, parce que comme ils grandissent vite, ils ne les mettent pas longtemps. En fait, quand ils cherchent, ils nous trouvent. Après, ça nous est arrivé aussi, hein, bien sûr, en passant dans certains médias, de nous faire connaître et de parler de la cause. On consacre beaucoup de temps à sensibiliser pour la cause parce que vraiment, j'ai l'impression que les gens sont déjà très, très sensibilisés, très au courant de ce qui se passe.
Mais c'est extraordinaire, du coup, parce que, comme vous avez dit, ça veut dire que les gens, ils viennent directement à vous. Donc, au final, vous n'avez pas réellement de besoin de grosse publicité parce que, en fait, on vous trouve, les personnes sont sensibilisées d'emblée. Et c'est ça qui est beau. Parce que c'est vrai que, comme vous dites, moi, lorsque j'ai trouvé l'association, je me suis dit, mais c'est juste génial parce qu'effectivement, les femmes, on a la plupart des femmes, ils ont eu des enfants. Et je connais encore, à l'heure actuelle, des mamans qui ont des enfants, donc de 8-9 ans, mais qui ne savent toujours pas quoi faire de leurs enfants, enfin des vêtements qu'ils avaient précédemment. Ils les ont toujours pas donnés ou quoi que ce soit parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc, il y a toujours... Pour les mamans, c'est au contraire, j'imagine que c'est génial de pouvoir donner des jouets, des produits bébés,
Oui.
des vêtements à une association comme la vôtre. Et ça répond en fait très facilement à votre besoin en fait.
Exactement, c'est ça. C'est vraiment, on fait même fonctionner l'écologie, vous voyez? Parce que plus, et puis vraiment, c'est vraiment pour la très très bonne cause. Quand ils donnent leurs affaires pour pas les jeter, c'est très très bien utilisé. Et on a aussi une marraine qui nous aide beaucoup, Sidonie Bonnec. Dès qu'on a besoin, par exemple, de faire un appel aux dons parce qu'il manque du 0,3 mois, par exemple, vu que le 0,3 mois, ça part très vite, on en distribue à peu près 250 par mois. Donc, c'est 250 fois 6 body, 250 fois 6, comment dire, 6 pyjamas, etc. Enfin, du coup, c'est des besoins vraiment qu'on a régulièrement pour 3 mois, les porte-bébés, etc. Bah, on contacte en fait notre marraine qui nous fait un peu de pub sur les réseaux, etc.
Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux et le rôle de la marraine, en fait, ça va être vraiment de faire de la pub en cas de besoin, de pouvoir, en fait, de combler les besoins que vous avez en termes de produits, etc., pour pouvoir amener plus de dons ou de collectes. C'est ça.
C'est vrai que oui, les réseaux sociaux, c'est devenu maintenant la meilleure vitrine pour faire de la publicité et des recherches, quoi. Pour faire de la sensibilisation.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Puis les gens qui donnent, ils aiment qu'on fasse des retours sur ce que deviennent leurs dons, en fait. Donc quand ils voient que c'est très bien utilisé, parfois ça nous arrive de faire des publications. voilà, de montrer des petits bébés qui viennent de recevoir les dons, etc. Et souvent, bah, quand on fait ces publications-là, elles sont beaucoup, beaucoup vues. Il y a beaucoup d'algorithmes dessus. Et du coup, bah, souvent, ça entraîne beaucoup d'autres personnes qui viennent vers nous pour des dons. Enfin, c'est tout un système.
Oui, au final, ça fait comme vous avez dit, l'effet boule de neige. Hein, parce que déjà, effectivement, lorsque vous donnez bah,
C'est ça.
une collecte de vêtements, enfin des vêtements, etc., les personnes qui demandent des retours, ils sont contents de voir que leurs biens ont été utilisés à un bon escient, en fait. Et ça a pu aider une famille ou des femmes en situation précaire.
C'est ça. C'est ça complètement, parce que ça donne un sens en fait à leur don. Ça donne un sens. Ce sont des personnes qui reviennent quand le bébé grandit, hein, pour nous donner les affaires de bébé plus grand.
Oh, c'est génial, ça fait comme une grande famille en
Tout comme
fait.
d'ailleurs, quand on trouve des dons. Non, mais c'est carrément ça. Et parfois, ce sont des personnes qui vont aussi faire des collectes de leur côté quand les enfants sont en crèche, etc. Ils sont tellement contents que leurs affaires aient été bien utilisées qu'ils vont faire des collectes dans les crèches, dans les écoles, auprès des mamans qu'elles connaissent, de leur réseau à elles. Enfin, vraiment, c'est une grande toile d'araignée, en fait, au final, qui tisse et qui tisse du réseau partout. Et je sais plus ce que je voulais dire. En parlant de redonner des affaires d'enfants plus grands, même les mamans qui viennent chercher des bagages chez nous, par exemple, on leur donne du 0-3 mois quand le bébé vient de naître. Et quand leur bébé grandit, elles nous ramènent les affaires du bébé qui ne lui vont plus. On ne les a pas données à une voisine à l'hôtel qui en avait besoin, hein, parce que c'est important de le dire aussi, mais ce sont des affaires qui continuent à tourner encore. Parce que souvent, elles donnent à leur voisine qui vient d'accoucher, etc., à l'hôtel social. Et quand elles ne l'ont pas donné, bah, elles viennent nous le redonner et nous, on leur redonne des affaires plus grandes pour le bébé. Et on fait ça jusqu'au 1 an du bébé, à peu près.
Ouais, c'est génial, c'est vraiment une belle entraide en fait. Et comme vous dites, réutiliser, c'est aussi du recyclage pour le coup. Mais ça, en fait, on peut voir que mine de rien, la contribution, à partir du moment qu'une personne fait une contribution, elle va servir tout au long en fait. Elle ne sera jamais perdue.
C'est ça.
Du coup, vous avez parlé des petits bagages d'amour, donc on va en parler. Les petits bagages d'amour, j'ai vu qu'il y en avait à peu près plus de 200 qui sont distribués chaque mois et qu'en janvier du coup 2024, donc il y a 2 mois, il y a eu 199 bagages déposés. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont du coup les types de bagages d'amour que vous collectez et également quelles sont les permanences?
Alors, du coup, les bagages, en gros, c'est tout ce dont une femme pourrait avoir besoin durant son séjour à la maternité pour le bébé. Et en plus, tout ce dont le bébé a besoin pendant 3 mois. Donc, il y a la layette, donc les body, les pyjamas, des tenues pour le bébé pour la sortie, des gigoteuses ou turbulettes, des combinaisons manteau épais pour la sortie maternité. Des porte-bébés dans la mesure du possible. C'est vrai que les porte-bébés, on en a peu. Et c'est ce dont il y a, j'ai envie de dire, le plus besoin quand une maman sort de la maternité. Pour qu'elle puisse porter ses affaires, il faut que le bébé soit porté sur le porte-bébé, quoi. Il y a des produits d'hygiène, des couches, du savon bébé. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Les produits pour laver les fesses, hein, le liniment, souvent. Le coton, comment dire, les sérums physiologiques aussi. Je réfléchis. En gros, voilà. Bon, j'ai pas parlé des bonnets, des petites chaussettes, des bavoirs, etc. Voilà. Et puis, on met en sorte qu'il y en ait pour 3 mois, quoi. Et puis, pour la maman, on essaie de lui mettre des petites choses qui pourraient lui faire plaisir, pareil, pour son séjour à la maternité. Voilà, des shampoings, des gels douche, des petits parfums, des petits maquillages, des choses comme ça.
C'est des magnifiques bagages d'amour que vous préparez. Est-ce que ce sont des bagages du coup que les bénévoles préparent dans les permanences, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Alors, on a depuis 2 ans maintenant une salariée au sein de l'association. Donc, c'était une bénévole depuis les débuts qui, du coup, peut assurer des permanences fixes. les mercredis et jeudis de 9h à 14h. Donc là, pour le moment, et puis il y a des permanences en plus. Pour cela, il faut suivre ce qui se passe sur la page. On essaye hein, de mettre à jour les permanences semaine par semaine en fonction des disponibilités des bénévoles. Il peut y avoir des permes en plus la semaine ou le week-end. Et du coup, les bénévoles préparent les bagages bah, durant ces permanences-là. Donc, il faut toujours qu'il y ait au moins une personne ancienne de l'association, qu'on appelle les chefs de perme, pour que, elle puisse guider les nouveaux bénévoles arrivés pour leur expliquer comment on prépare un bagage, etc. Qui a la liste aussi des bagages, enfin des bagages à préparer, avec le nom des mamans, le nom des bébés, l'âge des bébés, etc. Ce dont ils ont besoin en particulier. Si la maman n'allaite pas, c'est précisé, parce qu'on va toujours faire en sorte de favoriser l'allaitement maternel. Donc, on ne va pas mettre d'emblée du lait maternisé si la maman allaite. Par contre, si elle en fait la demande, on en met. Voilà.
Est-ce que les permanences sont simplement que pour les bénévoles ou tout le monde peut y assister? Enfin, je veux dire, les personnes qui adhèrent à la cause et qui souhaitent aider, est-ce qu'elles peuvent faire des permanences ou c'est vraiment strictement réservé aux bénévoles?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout le monde peut être bénévole. Tout le monde peut venir. Que ça soit une fois par semaine, une fois par mois, une fois dans l'année. Voilà, toute personne qui a du temps libre, qui veut venir aider, est la bienvenue. D'accord? Ce qui compte, c'est qu'il y ait une permanence, en fait. Qu'il y ait une personne ancienne qui connaisse le fonctionnement du local. Et donc, pour les dates, hein, comme je vous disais, c'est précisé sur nos réseaux en général. Parfois, ce qui se passe aussi, c'est que les entreprises nous envoient leurs salariés. Durant leur temps de travail, on peut organiser avec des entreprises des journées où ils nous envoient 10-15 salariés environ pour faire une journée préparation, tri des dons, etc. Et souvent, d'ailleurs, ces entreprises-là n'arrivent jamais les mains vides. Elles arrivent toujours avec des collectes qu'elles ont faites au sein de l'entreprise.
Oui, est-ce que c'est comme des maraudes, c'est ça, non?
En fait, les maraudes, c'est quand on va faire de la distribution directement au sein des hôtels et tout ça, mais là non. Les entreprises, vraiment, elles viennent au sein du local. Elles restent locales, en fait, à nous aider durant leur temps de travail pour qu'on ait des bénévoles. Mais on ne fait pas de maraude.
D'accord, ok.
Ça peut nous arriver.
Oui.
Quand, par exemple, la femme ne peut pas se déplacer, imaginons, elle est très isolée, elle n'a qu'une famille, personne, elle vient d'accoucher, elle est à la maternité. Ben là, ça peut arriver qu'une bénévole dépose le bagage à la maternité directement. Mais ce n'est pas fréquent.
Ok, d'accord, je vois. Donc, au niveau des bénévoles, Samra, du coup, tout le monde peut être bénévole. Et par exemple, si moi je souhaite aider pendant une permanence, bon, j'habite en Angleterre, mais c'est un exemple, je peux venir lors du permanence, comme vous avez dit, je crois, le mardi et le jeudi, et aider. Et est-ce que si quelqu'un souhaite être bénévole permanent, donc toujours être là, pour l'association, aider, je sais pas, avec les messages ou aider dans le local, etc. Comment une personne peut devenir bénévole permanente?
Alors, en fait, ça va être progressif. Si on voit que la personne, elle vient vraiment régulièrement, toutes les semaines par exemple, ben, elle va automatiquement devenir bénévole permanente. Mais après, on pourra même lui expliquer comment devenir chef de perme pour qu'elle puisse elle-même gérer des bénévoles qui vont arriver, des nouveaux bénévoles.
D'accord.
Tout le monde peut venir. Il suffit juste de voir les horaires. Il n'y a pas besoin de s'inscrire avant. Voilà, vous venez le matin de la perme, ou même si vous venez pour 1 ou 2 heures, hein, c'est possible. Hein. Si la perme est de 9h à 14h et que vous pouvez venir qu'à 13h, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce qui compte, c'est de venir motivé.
Toujours avec la motivation et le sourire. Puis je pense que de toute façon, les personnes qui viennent faire des permanentes, elles doivent être voilà, toujours motivées avec le sourire car c'est une belle cause et je pense qu'elles font des belles rencontres aussi.
Ah oui, non, ça c'est clair, ça c'est garanti, hein. Vraiment, on passe des bonnes termes, dans la bonne humeur, avec de très belles rencontres, que ce soit au niveau des bénévoles ou au niveau des familles qui viennent récupérer les bagages. Il y a toujours de magnifiques choses qui se passent.
Que faire, Samra, si on voit une femme qui est en situation de précarité? Est-ce que vous pensez que c'est mieux, par exemple, de contacter votre association ou plutôt du coup le 115? Mais comme vous avez dit que le 115 il est saturé, est-ce que la meilleure solution c'est de prendre contact avec l'association directement?
Alors, pour le logement, vous voyez une femme enceinte ou une femme avec bébé ou enfant à la rue, première chose à faire, c'est de proposer le 115. À Paris, il faut beaucoup de persévérance pour les avoir, mais il ne faut pas lâcher. Genre, des fois, on peut rester toute une matinée au parleur, à attendre qu'ils décrochent, mais ils vont décrocher à un moment donné. Donc, il faut essayer toujours le 115 en premier, parce qu'une fois que vous rentrez dans le système du 115, après, souvent, vous allez être, comment dire, rappelé pour un logement. Et après, à long terme, le 115, après, ça peut donner des bouchées sur un logement plus pérenne. Il faut vraiment, vraiment, dans la mesure du possible, faire le 115. Après, si vraiment vous avez appelé le 115, vous n'avez pas du tout réussi à les joindre, ou bien vous les avez eus, qui vous disent qu'il n'y a pas de place, là, vous pouvez nous contacter par mail ou sur les réseaux. Voilà.
Super. Merci beaucoup, Samra. Samra, on arrive bientôt à la fin de l'interview. J'ai encore deux petites questions pour vous et après on aura terminé. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les différents types de dons que l'on peut faire pour un bagage d'amour et comment y contribuer?
Alors, donc il y a différentes manières de contribuer à l'association. Donc, soit par un don de ce qu'on recherche, de vêtements, bébés, notamment 0-3 mois, ça c'est très demandé, des porte-bébés, des poussettes, voilà, matériel d'hygiène, on a Biolan qui nous aide beaucoup. Donc, pour le moment, on a des stocks suffisants. Les biberons également. Tout ce qui pourrait servir à un nouveau-né qui n'est pas encombrant, hein, je précise, parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace pour stocker. Donc, on ne va pas prendre des tables allongées, par exemple, on ne va pas prendre des lits bébés. Voilà. Donc, tout ce dont un bébé pourrait avoir besoin. Du lait maternisé aussi, si vous voulez nous acheter des boîtes, on prend. Premier âge, deuxième âge, croissance, voilà. Vous pouvez également nous aider par des dons d'argent. On a un PayPal, donc vous pouvez faire un virement en précisant dans l'objet pourquoi vous voulez faire le virement. Est-ce que c'est pour des nuits d'hôtel? Est-ce que c'est pour acheter du lait? Est-ce que c'est pour, voilà, pour acheter des produits d'hygiène, etc. Ou bien, bah, comme on expliquait avec le bénévolat, pardon, votre temps. Vous voulez venir nous aider, donner 1 heure, 2 heures de votre vie, voire plus pérenne, bah, vous êtes les bienvenus, voilà, pour venir nous aider.
C'est génial. Ben merci Samara pour toutes ces informations. Je pense que il y a beaucoup d'auditrices où ça va leur ouvrir les yeux car je sais qu'il y a des auditrices qui sont mamans et qui peut-être encore aujourd'hui ont des vêtements. Donc si vous avez des vêtements de bébé que vous n'avez pas donné ou que vous n'avez pas vendu, n'hésitez pas. Vous savez où aller directement faire une permanence et soutenir l'association. Samra, dernière petite question, comment on peut contacter l'association? Quels sont vos contacts?
Alors, par mail, il y a un petit bagage d'amour tout attaché, @gmail.com.
Merci.
Ensuite, on est beaucoup sur les réseaux aussi, Instagram, message privé, vous nous contactez par Instagram. On essaie de répondre dans la mesure du possible, hein, dans le plus rapidement possible. Si on ne vous a pas répondu, n'hésitez pas à faire remonter les messages, à nous relancer. Voilà. Et bah, c'est les deux principaux moyens pour nous joindre.
Voilà, et pour rappeler l'Instagram, c'est bien un petit bagage d'amour.
C'est ça. Donc il y a plusieurs antennes, hein. Donc en fonction de la ville où vous êtes, vous allez trouver la page en rapport. Et puis au pire, nous on transfère à la bonne antenne.
Super, bah merci beaucoup Samra, ça m'a fait énormément plaisir de vous interroger pour le podcast. Vous avez une très très belle association, vous soutenez une très belle cause, vous pouvez vraiment en être fière et je suis super contente d'avoir connu votre association parce que je ne connaissais pas clairement et je suis ravie de connaître car je vais pouvoir clairement en parler autour de moi à toutes mes amies qui sont devenues maman de l'année dernière. Donc je suis super contente parce qu'elles vont pouvoir carrément donner leurs vêtements de bébé à l'association. Donc je suis super contente de vous avoir interrogée. Merci beaucoup de votre temps.
En tout cas, merci vraiment infiniment pour l'invitation, Andy. C'était très agréable et bravo pour vos podcasts, hein, qui sont vraiment géniaux et très agréables à écouter. J'ai beaucoup de routes, donc, donc c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup et ça me fera plaisir de m'écouter aussi. Du coup, ça va me faire bizarre de passer de l'autre côté.
Bah, c'est gentil à vous. Et oui, je sais que pour les invités, c'est toujours bizarre de s'écouter. Mais on s'y fait. On arrive à s'y faire à notre voix. Merci, Samra.
Bah, très bonne fin de journée. Et puis à bientôt, Andy.
À bientôt. Bon courage. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Podcaston. J'espère que cela vous a plu et que vous en avez appris plus sur cette association et que ça va vous encourager à la soutenir et à faire des dons de vêtements si vous êtes maman ou bien même si vous êtes amie d'une maman. N'hésitez pas à partager cet épisode et à participer aux permanences comme Samra vous l'a indiqué. Je vous invite à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir toutes les autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité et si vous le souhaitez, de faire un don pour l'association Un Petit Bagage d'Amour. Et comme je l'ai dit auparavant, vous pouvez faire un don de vêtements. Ce qui est le plus recherché sont des dons de vêtements de 0 à 3 mois. Donc n'hésitez pas à déposer des vêtements lors des permanences. Merci beaucoup de votre fidélité à mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement. Andy.